J'aime particulièrement ce passage où Jésus incite Pierre à trouver dans le poisson qu'il pêchera la pièce, le stater qui lui permettra de payer l'impôt qui lui était réclamé. J'aime ce passage parce que le Saint-Pierre est un poisson particulièrement savoureux et qu'on dit que ce poisson a gardé une trace noire sur le côté qui est la trace du pouce de Pierre ayant pêché ce poisson. Et je suis donc, en tant que gastronome, souvent confronté à ce poisson-là. Pourtant, le texte biblique auquel il fait référence est bien plus compliqué. Bien plus compliqué parce que on ne comprend pas très bien l'intérêt de ce miracle. C'est un miracle vraiment bizarre, d'abord parce qu'il est trop trivial que Jésus fasse des miracles pour guérir des gens, pour ressusciter des morts, ça me plaît beaucoup. Qu'il fasse un miracle encore pour les noces de Cana, pourquoi pas, c'est pour que les gens soient heureux et que Jésus fasse des miracles pour qu'on soit heureux, cela me convient. Mais que Jésus fasse un miracle pour nous aider à payer nos impôts, j'avoue que le message me semble quand même tout à fait curieux. Et d'ailleurs, ce passage est plus complexe qu'il n'y paraît, ne se trouve que dans l'évangile de Matthieu. Il est très rarement commenté, il faut bien le dire. Aujourd'hui, très peu de gens l'ont commenté. Florence a prêché dessus il y a peu de temps et elle m'a donné quelques bonnes idées que je réutilise. Et sinon, avant elle, je n'ai trouvé des commentaires en fait vraiment que chez saint Augustin, saint Jérôme, Jean Chrysostome, et le plus intéressant, Origène d'Alexandrie, mais donc peu de choses. Et alors, à quoi sert ce miracle? Est-ce que le miracle sert à nous dire que Dieu peut subvenir matériellement et miraculeusement pour nous aider à payer nos impôts? Je ne pense pas que ce soit vraiment le message qu'il veuille faire passer. Alors donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe exactement. Et pour ça, il faut bien regarder le texte. Je vous rappelle les faits parce que la succession des événements est tout à fait fondamentale. Les collecteurs d'impôts demandent donc à Pierre si Jésus paye cet impôt de la didrachme. Pierre dit oui, il le paye. Mais ensuite, Jésus explique à Pierre qu'en fait, il devrait ne pas le payer parce que, en tant que fils de Dieu, il n'a pas à le payer, qu'il en est tout à fait exempt. Mais, dit-il, pour que ce ne soit pas un scandale pour ces gens-là, va pêcher, prends le premier poisson que tu trouves, ouvre-lui la bouche, prends dedans la pièce que tu trouveras, et ça payera l'impôt pour toi et pour moi. Donc, de fait, Jésus va mettre en quelque sorte sa puissance divine au service du fait de payer cet impôt. Mais déjà, là où ça me gêne, c'est que Jésus paye l'impôt, mais avant, il prend un soin considérable à expliquer qu'il ne devrait pas le faire. Et donc, il explique à Pierre cela, mais il dit que finalement, il va le payer quand même et qu'il va même mettre sa puissance divine au service de cela. L'interprétation habituelle, c'est de dire que Jésus, finalement, accepte de payer l'impôt, bien qu'il pense qu'il ne devrait pas le faire, pour ne pas être un scandale. C'est ce que l'on dit d'habitude. Cette interprétation est inacceptable, je vous l'avoue, je le crois. Inacceptable parce que, à ce moment-là, cela voudrait dire que la leçon du texte serait de dire, écoutez, ayez des convictions, mais en fait, asseyez-vous dessus et faites le contraire pour éviter d'avoir des ennuis. Ça n'est pas tout à fait l'état d'esprit que je crois voir dans l'attitude générale du Christ. Y aurait-il là une leçon d'hypocrisie? Est-ce que le texte nous dirait qu'il faut croire une chose, dire une chose et faire le contraire de ce que l'on croit et de ce que l'on annonce? Ce texte nous inviterait-il à être incohérents dans notre vie? Nous inviterait-il à renoncer à nos convictions pour éviter de faire du scandale, c'est-à-dire, autrement dit, de s'attirer des ennuis? Certainement pas. Jésus n'a jamais renoncé à choquer les gens. Sa vie a été fondamentalement un scandale pour les Juifs de l'époque. Il remettait tout en cause, le système religieux, l'organisation du culte, même le système social. Enfin, Jésus était un révolutionnaire absolument incroyable. Et ça a été un scandale, à un tel point que ce scandale l'a tué et qu'on l'a crucifié pour cela. Et par conséquent, clairement, Jésus se fichait un petit peu de l'opinion publique. Et au contraire, quand je vois la vie de Jésus, je n'y vois qu'une incitation à avoir le courage de ses actes et à être prêt d'aller jusqu'au bout de ses convictions, même jusqu'à la mort. Alors comment pourrait-il là dire qu'il faudrait mettre de l'eau dans son vin pour éviter de scandaliser les gens? Vous voyez bien que ça ne fonctionne absolument pas. Et donc, évitez de prendre des Bibles avec des notes qui vous expliquent le texte en bas, parce que ces notes ne disent que des bêtises. Essayez de trouver par vous-même. Je dois dire que si Jésus paye cet impôt, et si en plus il mouille Dieu dedans, en quelque sorte, par ce miracle, c'est certainement qu'il avait une raison majeure de payer cet impôt. Il dit que par principe, il ne devrait pas le faire, mais finalement, il va le faire, parce qu'il avait une autre raison probablement de le faire. Et ça commence à m'intéresser un peu plus, parce que je vais venir tout à l'heure sur ce qui pouvait être la raison majeure de Jésus de payer cet impôt, mais ce que Jésus nous apprend là, c'est non pas d'être hypocrite, mais c'est de ne pas être intégriste. Et qu'il ne sert à rien de rester à cheval sur ses principes, mais qu'il faut parfois savoir faire la part des choses, et que parfois nous pouvons être confrontés à des contradictions internes, et que nous sommes obligés de faire quelque chose qui, d'une certaine manière, n'est pas ce que nous aimerions faire. Non pas pour s'éviter des problèmes, mais pour une raison, je le rappelle, pour une raison majeure. Et c'est même ça très intéressant, parce que il montre qu'il faut assumer, et que par conséquent, la question c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Alors la raison majeure pour laquelle Jésus devait payer, bien qu'il pensait qu'il ne devrait pas, nous dit le texte, c'est afin de ne pas scandaliser les gens. Alors là, c'est une petite leçon de théologie qui commence à être aujourd'hui très connue, c'est que le mot « scandale » dans la Bible est un faux ami. Il ne s'agit pas de faire du scandale, comme on le dit au sens français du terme, mais dans la langue grecque du Nouveau Testament, dans la langue grecque même, le scandalon en grec, c'est le petit caillou sur lequel on bute et qui vous fait tomber par terre. Et ainsi, être scandale pour quelqu'un, c'est pas être une occasion de colère, mais c'est d'être pour l'autre une occasion de chute, c'est-à-dire une occasion de péché. Donc c'est très grave, si vous voulez. Et d'ailleurs, les traductions modernes ont enlevé ce mot de scandale pour mettre occasion de chute. C'est ce que met la traduction écuménique de la Bible et aussi la Nouvelle Bible Second qui a mis très justement cela. Donc le scandale, c'est la pierre d'achoppement. Autrement dit, la raison pour laquelle Jésus dit qu'il faut payer, c'est afin de ne pas être pour ceux qui sont là l'occasion de pécher gravement, c'est-à-dire de se mettre totalement en faute par rapport à Dieu. Voilà la raison. Et du coup, le texte commence à m'intéresser parce que je vous disais, Jésus renonce à ses principes, mais non pas pour s'éviter des problèmes à lui, il renonce à ses principes pour éviter de faire du mal à ceux qui se trouvent en face de lui. Et nous verrons pourquoi, mais déjà ça c'est intéressant. Parce que voilà déjà une des vraies leçons de l'Évangile, c'est qu'il ne faut pas être psycho-rigide sur ses principes, mais qu'il faut toujours se poser la question de ce que cela fait aux autres. Autrement dit, ce n'est pas pour éviter un scandale qui rejaillirait sur lui. Le chrétien, au contraire, le Christ nous invite à ne pas se préoccuper des conséquences que cela pourrait avoir sur nous. Mais là, ce que dit le texte est que l'important, ce n'est pas vos principes, vos idées fixes, mais la question sans arrêt à partir de laquelle on doit décider de ce que l'on fait, c'est par rapport à ce que cela fait à l'autre. Est-ce que ce que je fais fait du bien ou est-ce que cela fait du mal? Est-ce que ça va faire grandir celui qui est en face ou est-ce que ça va le faire chuter? Il est donc, Jésus se montre là comme un, et ça me plaît, comme un anti-intégriste. L'essentiel, ce ne sont pas les principes, ce ne sont pas les doctrines, mais l'essentiel, c'est l'attention à l'autre et c'est l'accueil de l'autre. Mais réfléchissez bien, cette idée-là va très loin, non seulement dans les choix que nous faisons dans notre propre vie, mais même dans la direction que nous pouvons avoir de notre propre Église, de savoir des gestes que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Certains chrétiens, à cause de leurs convictions, à cause de l'Écriture, à cause de la Bible, vont refuser d'accueillir certaines personnes ou vont choisir d'exclure ou de ne pas bénir certaines personnes. Et moi, ce que je lis de l'Évangile, c'est que peut-être que vous pouvez avoir des principes, des raisons, des vérités supérieures, tout ce que vous voulez, mais l'essentiel, c'est de ne pas être une occasion de chute pour celui qui vient vers vous. Alors en quoi est-ce que cela aurait pu être une occasion de chute pour ceux qui étaient là, que Jésus ne paye pas l'impôt? Alors les pères de l'Église se sont interrogés là-dessus, et certains ont dit, c'est parce que s'il n'avait pas payé, il l'aurait condamné, et ces braves gens auraient donc condamné un innocent, et en plus le Fils de Dieu, donc ça aurait été un grave péché, et Jésus leur évite cela. Bon, je ne crois pas. Je crois que la question, ce n'est pas ça, la question, c'est le sens du geste, c'est-à-dire ce qui aurait signifié le fait de payer ou de ne pas payer. Payer, cela voudrait dire pour Jésus adhérer au système, et il montre que de ce côté-là, il n'avait pas très envie parce qu'il n'adhérait pas finalement à ce système où on réclamait aux gens des impôts religieux en particulier. Et donc il a dit, moi je veux bien payer, mais je ne veux pas en faire de publicité. Mais refuser de payer, ça aurait été un autre message, ça aurait été de dire, je me mets en rupture par rapport à toute votre organisation sociale et religieuse. Et Jésus ne voulait pas non plus se mettre en rupture par rapport à toute la société, par rapport à la religion, par rapport à tous ces gens-là. Il voulait réformer la société, la renouveler, la réinterpréter, et non pas vivre comme une sorte de personnage autiste qui se met à l'écart du monde, à l'écart des lois, à l'écart des autres, à l'écart de la société. Jésus ne voulait pas non plus délivrer ce message. Et donc il ne voulait pas dire « je ne paye pas ». C'est ce qui voudrait dire « je me désolidarise et je refuse toute cette organisation sociale ». Il ne voulait pas se mettre en rupture par rapport au judaïsme ni la société, mais donc finalement il est coincé dans cette situation. S'il paye, il fait allégeance, et s'il ne paye pas, il se présente comme celui qui vient en rupture contre la société. Dans les deux cas, le message qu'il voulait faire passer est mauvais. Alors c'est là où Jésus est absolument génial, et je suis très fier de mon patron, parce qu'à chaque fois il se tire d'affaire d'une manière absolument extraordinaire, et en effet il va trouver une troisième voie, et la troisième voie c'est de payer, mais pas de sa poche. Ça c'est génial, il paye sans payer, autrement dit. C'est pourquoi il va trouver le stataire dans la bouche du poisson, et pas dans sa bourse ou dans celle de Pierre, parce qu'en effet, il aurait très bien pu. Je crois qu'un stataire, ce n'était pas énormément d'argent. Donc Pierre, qui était patron d'une PME de pêcherie à Capernaum, avait évidemment de quoi payer l'impôt, ça ne posait aucun problème. Et probablement que Jésus avait sûrement aussi, dans la bourse qu'il avait avec ses disciples, dont on nous parle ailleurs dans l'Évangile, les moyens de payer cet impôt. Et donc le miracle, ce n'est pas que Dieu subvient à des pauvres gens qui n'arrivaient pas à payer leur impôt. Le miracle, c'est que Dieu permet que Jésus, au lieu de prendre l'impôt de sa poche, le trouve dans le poisson, d'une façon qui ne vienne pas de lui. Ça, c'est génial. En effet, le miracle, c'est ça. Et ça, c'est très astucieux, parce que du coup, Jésus paye sans payer. Il paye, mais ça n'est pas lui qui s'engage là-dedans. Et là, ça me plaît aussi parce que Jésus arrive à sortir de la pensée binaire où on se dit, mais alors, il y a deux solutions, ou je paye ou je ne paye pas. Et on n'arrive pas à sortir de ces deux solutions qui sont toutes les deux mauvaises, et Jésus arrive à trouver une troisième voie. Réfléchissez bien à cela aussi, parce que souvent, nous sommes comme cela confrontés à des, je dirais, à des réponses binaires, à des alternatives qui semblent nous enfermer. Si je fais ça, je suis coincé, et si je fais ça, je suis coincé. Il ne faut jamais se laisser faire par ceux qui prétendent qu'il n'y a que deux solutions à un problème. Comme dirait l'autre, il y a deux catégories de gens, ceux qui disent qu'il y a deux catégories de gens et ceux qui ne le pensent pas. Mais en fait, il y a toujours une troisième solution. Et souvent, quand il y a un problème comme ça à régler, l'idée, ce n'est pas de céder dans un sens ou dans l'autre, c'est de trouver une troisième voie. Et là-dessus, Jésus a été très fort. Et c'était donc ça, cette ruse extraordinaire, de prendre la pièce comme aux yeux de tous, ne venant pas de lui. Alors donc, pourquoi ? Revenons au sens du geste, parce que je crois que l'essentiel, c'est donc bien ça, c'est la signification même du geste de payer ou de ne pas payer, de payer de sa poche ou de trouver providentiellement une autre source pour payer cet impôt. Parce que cet impôt, en effet, n'était pas un impôt comme un autre. La 10 drachmes, donc payer 2 drachmes, c'était un impôt religieux. Un impôt religieux qui est institué dans le livre de l'Exode au chapitre 30, que vous pourrez lire parce que c'est tout à fait essentiel. Et ce qui est dit, c'est que payer la 10 drachmes, c'est signifier que l'on fait partie du peuple d'Israël. C'est-à-dire tous ceux qui se reconnaissent comme appartenant au peuple d'Israël devaient payer la 10 drachmes. Et étaient donc dispensés de cet impôt religieux ceux qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Et donc payer la 10 drachmes, c'est faire un signe que l'on fait partie du peuple d'Israël. Cet impôt servait à payer les services des sacrifices et l'entretien du temple. Et donc les pharisiens voulaient que l'on paye pour avoir le droit de faire partie du peuple, autrement dit. Et c'est là où Jésus se présente avec une logique toute différente. Il ne rejette pas le fait de faire partie du peuple. Pour ça qu'il ne veut pas ne pas payer, parce que ne pas payer, ce serait dire « Je ne fais pas partie du peuple d'Israël, je ne fais pas partie du peuple de Dieu, je n'ai rien à voir avec vos histoires et le temple. » Jésus n'est pas comme ça. Jésus prétend faire partie du peuple d'Israël. Il prétend être fidèle aux prophètes, fidèle à la loi. Il prétend faire partie du peuple de Dieu, mais pas à la manière des pharisiens. Et justement, son message, c'est de dire l'appartenance au peuple de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui s'achète. Ce n'est pas par le fait de payer quoi que ce soit, c'est offert par grâce. Et c'est donné comme à des enfants. C'est ce qu'il dit, les enfants payent-ils l'impôt au roi? Non, les enfants, ils font déjà partie de la famille, autrement dit. Et ils n'ont donc pas besoin de justifier leur appartenance, ils l'ont par nature et par naissance. Ils font partie de la famille. Autrement dit, l'Église, déjà, n'est pas un club avec un droit d'entrée. Vous pouvez signer un papier comme quoi vous voulez faire partie de l'Église protestante unie de France, membre de l'Étoile, on ne vous demande rien. On ne dit pas vous devez cotiser, on ne dit pas vous devez être présent aux offices, on ne dit pas vous devez vous engager, on dit simplement vous voulez, vous êtes bienvenu, vous êtes accueilli comme un membre de la famille. Le simple fait de dire oui, je veux en faire partie, justifie votre possibilité de faire partie de l'Église. Mais par-delà l'Église, plus important, c'est le peuple de Dieu. Et donc, vous pouvez faire partie du peuple de Dieu, du peuple des rachetés, sans aucune condition d'acte, de rite, de sacrifice, de paiement, d'impôt, de quoi que ce soit ou de geste. Vous en faites partie parce que vous êtes accueillis gratuitement. Faire partie de la famille, il n'y a pas besoin de rite d'entrée pour être dans une famille. Il n'y a pas besoin de faire des sacrifices, de faire des pratiques religieuses ni de justifier de sa fortune, ni de ses qualités. Vous faites partie des enfants de Dieu parce que Dieu vous y reçoit. Vous êtes accueillis gratuitement. Et ça, c'est ce que dit aussi dans l'Ancien Testament, ce chapitre 55 d'Ésaïe, que je cite pour au moins la troisième fois de suite dans mes sermons de l'été. « Venez, vous tous, sans argent, sans rien payer. » Alors donc, vous disais-je, ça c'est la théologie de Jésus et ça me plaît. S'il avait refusé de payer, on l'aurait pu le taxer de radin ou de vouloir se mettre en marge du peuple, et ça il ne le veut pas. Il veut bien faire partie du peuple, mais ce qu'il montre, c'est qu'il refuse de dire que faire partie du peuple supposerait que ce soit moi qui paye, et ce qu'il montre, c'est que c'est Dieu qui paye pour moi. D'où l'importance du miracle. C'est Dieu qui fait surgir cette pièce de la bouche du poisson. Et donc oui, s'il faut payer quelque chose, pourquoi pas? Mais Dieu a déjà payé pour moi. Dieu se charge de tout. Dieu s'est chargé de payer votre cotisation au temple. Dieu s'est chargé de payer votre droit de faire partie de son peuple. C'est Dieu qui paye pour nous. Et ça va plus loin. Parce que, toujours dans l'Exode au chapitre 30, il est dit que payer ce 10 drachmes, c'est une obligation pour tout membre du peuple d'Israël, mais il explique après, au verset 15, que chacun devra le payer, attention, pour racheter son âme. C'est-à-dire, ou traduit autrement, chacun doit payer cet impôt pour l'expiation de sa vie. Racheter son âme ou l'expiation de sa vie. C'est-à-dire que le texte nous dit que cet impôt sert non seulement à faire partie du peuple, mais ça sert à justifier de son existence. C'est-à-dire que votre vie, vous avez plein de défauts, ça ne mérite rien, vous devez racheter votre âme, racheter votre vie, vous devez justifier de votre vie. Et donc vous voyez que là encore, il y a un message très fort. Comment justifier sa vie? Comment donner un sens à son existence? Comment faire en sorte que j'ai le droit de me présenter devant vous et devant Dieu alors que je suis pécheur? Est-ce que c'est en étant généreux? Non. Est-ce que c'est en me montrant particulièrement bon dans la pratique religieuse, dans le fait de donner à l'Église? Est-ce que c'est de faire des rites? Est-ce que c'est de payer? Ça, c'est de la logique des pharisiens. Mais la logique de Jésus, c'est non, vous n'avez pas à justifier de votre vie. De même qu'un fils n'a pas à justifier de son droit de faire partie de la famille. Quand vous êtes dans une entreprise, si vous êtes mauvais, le patron peut vous dire « un tel, vous êtes mauvais, je vous vire, vous ne méritez pas d'être dans notre société ». Eh bien, le peuple de Dieu n'est pas comme ça. Personne n'est exclu du peuple de Dieu et personne n'a à justifier son existence pour en faire partie. Chacun est accueilli comme il est parce qu'il fait partie de la famille. Et donc, on peut aller plus loin parce que pourquoi, là aussi, le symbole qui me plaît, va-t-il trouver la pièce qui va justifier de la vie, donc, elle va être offerte. C'est pas à lui de payer, c'est offert. Offert par Dieu, très bien. Pourquoi plus particulièrement dans la bouche d'un poisson? Là, j'ai plusieurs idées là-dessus. Vous garderez celle qui vous plaira parce que vous ne vous souviendrez pas de tout, donc vous souviendrez de celle qui vous intéresse. La première, c'est le côté un peu écologique de l'affaire. La pièce est trouvée dans le poisson, c'est-à-dire dans un élément de la nature. Autrement dit, la nature elle-même justifie de notre existence. On est racheté par le simple fait d'exister. Vous n'avez pas demandé à naître, donc vous êtes sur terre, et bien le fait que vous soyez un être humain justifie de votre existence. Vous n'avez rien à prouver à personne, ni le droit d'être, ni le droit d'exister, ni le droit d'embêter le monde, parce que là où vous existez, vous prenez la place de quelqu'un, vous êtes là, par nature, chacun est accueilli. Ou alors on peut aller plus loin en disant, pourquoi demande-t-il à Pierre? Il lui dit « pêche le premier poisson venu ». Pourquoi comme ça? Il aurait pu trouver, je ne sais pas moi, le stataire, il aurait pu le trouver par terre, ou un oiseau du ciel aurait pu la faire tomber de son bec. Il demande à Pierre de pêcher un poisson. Pourquoi? Eh bien parce que Pierre était pêcheur. C'était son métier, si vous voulez. C'était son boulot. Pierre, ce qu'il savait faire, c'est de pêcher dans le lac de Tibériade. Et donc, Jésus demande à Pierre, pour justifier de sa vie, une chose. Il lui dit, mon pote, fais ton boulot. Et en faisant ton travail, automatiquement, tu trouveras ce qui justifiera ta vie. Autrement dit, ce qui justifie notre vie, ce qui lui donne sens, ce n'est pas l'obligation de trouver des choses extraordinaires, de faire du plus. Faites déjà bien ce que vous faites dans votre métier. Vous êtes pêcheur, eh bien pêchez vos poissons, ça justifiera votre vie. Vous êtes professeur, eh bien enseignez vos enfants très correctement et ce que vous enseignerez justifiera de votre vie. Quel que soit votre métier, faites votre boulot et c'est dans votre travail, dans votre activité quotidienne que vous justifierez de votre existence. Alors vous me direz, oui, mais si je suis chômeur, eh bien chômeur est un métier. Parce que ça suppose de supporter l'État déjà, donc si vous supportez quelque chose de pénible, d'avoir le courage et la patience de supporter son état difficile, c'est une activité qui justifie de votre propre existence. Chercher un emploi, c'est une activité, et donc faites-le bien. Vous êtes élève ou étudiant, étudiez. Étudier, c'est une façon de justifier de sa propre vie. La seule chose qui ne justifierait pas, c'est de ne rien faire. Si vous ne faites rien, alors vous êtes perdu. Donc, offrez à Dieu ce que vous faites. Et même si vous êtes à la retraite, offrez à Dieu ce que vous faites pour les autres, pour des associations, pour vos enfants, pour vos neveux. Et si vous êtes malade, offrez à Dieu ce que vous faites, c'est-à-dire le sérieux avec lequel vous allez tous les jours voir votre médecin, l'hôpital, les impôts, les contrôles, les opérations. Et si vous vous soignez, faites sérieusement de vous soigner, faites bien ce que vous faites. C'est ce que dit Paul, quoi que vous fassiez, en action, en parole ou en acte, faites tout pour la gloire du Seigneur. C'est ce que faisait Jean-Sébastien Bach en signant « Soli Deo Gloria » sur chacune de ses œuvres, « Tout ce que je le fais pour Dieu ». Pas besoin d'en faire plus. Ou alors, effectivement, parce que certes, Pierre fait bien son boulot, mais il y a quand même le miracle. Le miracle nous dit autre chose, c'est que finalement, notre vie n'est pas simplement justifiée par notre travail. Je me suis un peu laissé emporter là. Sinon, il aurait dit, pêche des poissons, vends-les au marché, paye le stataire. Notre vie est justifiée par notre travail et par Dieu qui vient sanctifier notre travail. C'est-à-dire lorsqu'il y a cette dimension spirituelle de Dieu qui vient rendre extraordinaire les choses purement humaines et terrestres que nous faisons. Notre vie est justifiée par notre œuvre et par notre relation à Dieu. C'est ce que disait, c'est toute la base de la règle bénédictine, vous savez les bénédictins, où Saint Benoît disait donc « Ora et labora, travaille et prie ». Ou prie plutôt et travaille. Mais continuons dans cette image. Qu'est-ce qui sauve et donne sens à notre vie? Je vous l'ai dit, c'est ce qui sort de la bouche du poisson. Donc je suis parti sur l'idée que Pierre était pêcheur de poissons, mais là encore, j'ai peut-être eu tort, parce que au début de son ministère, Jésus rencontre Pierre et lui dit « Désormais, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je ferai toi pêcheur d'hommes ». C'est-à-dire qu'il lui dit, va, la mer, vous savez, pour les Hébreux, c'est le mal, c'est la mort, c'est la souffrance, c'est le chaos. Et donc il dit, va au fond de la mer, va là où il y a du mal, du problème, de la difficulté, et là, essaye de trouver des particules de vie pour les ramener à la surface. Travail à faire pour soi-même, je cherche dans la misère de ma vie, je cherche les particules positives qui s'y trouvent, et image du monde, va dans le monde et va sauver des hommes, c'est-à-dire va trouver des hommes qui, eux, croupissent dans le désespoir, dans la tristesse, dans le matérialisme et dans le découragement, et prends-les pour les ramener à la surface, à la lumière et à l'espérance. Va chercher des âmes perdues pour les ramener à la vie, pour les sauver. Et du coup, si Pierre doit là être justifié par la pièce qu'il trouve dans ce qu'il pêche, ce que veut dire Jésus, c'est que plutôt que de faire des pratiques religieuses, plutôt que de faire des rites, plutôt que de te mettre en règle avec l'Église. Va, puisque tu es pêcheur d'hommes, va. Et dit-il, le premier poisson que tu pêcheras, ouvre-lui la bouche et prends la pièce qu'il y a dedans. Et j'ai donc dit, plutôt que de faire des pratiques religieuses, ou en plus, hein, va, le premier que tu croises, ramène-le au Christ. La première personne que tu vas rencontrer dans le fond de la mer, redonne-lui de l'espérance, de la joie et de la paix. Et c'est dans sa bouche que tu trouveras la pièce qui justifiera ta vie. C'est-à-dire que la première personne qui pourra dire « Lui, il m'a redonné l'espérance, ta vie est sauvée. » La première personne qui pourra témoigner de ce que vous lui aurez apporté sauvera votre vie. Parce que la seule chose qui donne sens à notre vie, ce n'est pas les impôts que nous payons ni à l'État ni à l'Église, c'est d'être capable d'être une source de vie pour quelqu'un de nos prochains, pour quelqu'un que l'on a rencontré. Et même pour le premier venu, ne choisis pas celui que tu vas aider. Ne dis pas, lui, ne le mérite pas. Lui, je vais sauver un tel parce qu'il est formidable. Le premier poisson que tu pêcheras. J'ai consulté des centaines de pages de livres sur ce texte et je sais tout. Et ce qu'ils disent, c'est que dans le lac de Tibériade, le premier poisson que l'on pêche a toutes les chances d'être un poisson-chat immangeable. Voilà, bon. Donc, en tout cas, ce n'était pas un Saint-Pierre parce que le Saint-Pierre est un poisson de haute mer, pas un poisson de lac. Je reviens à mon sujet. Et donc, même le premier poisson est probablement de piètre qualité, mais ça n'est pas grave. Ce témoignage donne sens à ma vie. Bon, allez, une petite dernière pour la route. Je vous ai dit, aller chercher des particules de vie dans le fond de la mer, ça peut être vis-à-vis des autres ou même peut-être vis-à-vis de soi. Quand il semble que ma vie n'ait plus de sens, que ma vie... sombre dans la mer, que ma vie ne soit que péché, culpabilité, ténèbres, il lui dit, va chercher le premier poisson que tu trouves, c'est-à-dire au fond de toi-même, dans ta vie. Va chercher la première petite particule de vie et d'espérance que tu trouves, parce qu'en cherchant bien, on trouve toujours dans sa vie quelque chose qui peut être une petite joie, petite source d'espérance, voire de fierté. Eh bien, la première que tu trouves, tu la prends, et tu la laisses parler. Et si tu lui donnes la parole, parce que là, ta terre est dans la bouche de ce poisson, cette chose-là pourra te dire énormément sur le sens de ta vie. Il n'y en a pas besoin d'un autre. Le premier poisson que tu trouves dans ta vie pourra te sauver. Oh, puis celui-là, non, je ne peux pas. Je vous ai dit, c'était le dernier, encore un après-dernier. Je m'arrêterai sans doute là-dessus, sauf si je trouve d'autres idées d'ici là. Le poisson... Ça, vous le savez, le poisson ictus, vous savez, c'est le symbole du Christ. Et est-ce que ce poisson n'est pas le Christ lui-même? Et donc, aller chercher le poisson qui est dans la mer, c'est aller chercher le Christ qui vit même dans la mer, c'est-à-dire le Christ ressuscité. Et la première parole du Christ ressuscité que tu trouves va sortir de la mort celui qui a survécu de la mort. Et la première parole du Christ ressuscité, celle-là donnera sens à ta vie. Parce que le Christ ressuscité ne vient pas pour régler des comptes ou pour demander quoi que ce soit. Il commence par dire simplement « La paix soit avec vous ». Ce sont les premiers mots essentiels du Christ dans l'évangile de Jean. Et donc les premières paroles de ce Christ, ce sont des paroles de grâce, de vie, de paix et d'amour. Et c'est cela qui nous sauve, qui nous permet de faire partie du peuple de Dieu gratuitement et qui donne sens à notre vie. Donc vous voyez qu'il n'est pas question que Dieu paye nos impôts à notre place, mais que Dieu nous offre lui-même le droit de faire partie de ses enfants, de son peuple ou de son Église. Et c'est Dieu lui-même qui justifie de notre vie. Nous n'avons pas à prouver quoi que ce soit, nous n'avons juste qu'à faire notre petite part du travail, dirais-je, et ensuite faire confiance à Dieu. Et Dieu pourvoit à ce que notre vie soit acceptée, validée et justifiée par grâce. Amen.